Bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de Votre Mag avec aujourd'hui le nouveau magazine d'Irlotte qui est chez votre marchand de journaux mais aussi son hors-série Itinérance. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Mais premièrement, nous allons rencontrer un auteur de quelques livres sur les contes et légendes du Quercy. Son dernier livre vient effectivement de sortir et nous allons en discuter avec lui. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est le Mag. Des légendes, on aime beaucoup raconter ces histoires. Alors tout le monde connaît la petite histoire du diable du pont Valentry, mais il y en a peut-être d'autres justement que vous ne connaissez pas. Et c'est le but de ce livre que vient de publier Michel Lombard, Contes et légendes du Quercy. Bonjour Michel Lombard.
Bonjour.
Alors, Contes et légendes du Quercy, finalement, le Lot, c'est une terre de légendes.
Le Lot est une terre de légende, comme la plupart des terroirs français, mais plus particulièrement ici, parce que l'aridité et la sécheresse et l'austérité peut-être des sols est plus à même d'évoquer des histoires fabuleuses.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont surprenantes, comme le gouffre de Padirac, des falaises, des rivières souterraines, le murmure du vent dans les chaînes du Causse. Alors, tout cela est sûrement propice à raconter des histoires, était propice à raconter des histoires.
Est-ce que ces histoires, elles sont vraies au final ? Est-ce que des fois vous avez eu un doute quand vous les avez trouvées, ces histoires ? D'ailleurs, vous allez nous raconter comment vous avez fait vos recherches. Mais est-ce qu'il y a eu du vrai un petit peu ?
Donc du vrai du début à la fin, je crois pas qu'il y en ait eu beaucoup. Bon, certains étaient inspirés par la religion, par les catholiques. C'était une forme de série télévisée avant l'heure, finalement, sans télévision, qu'on se racontait le soir au pied de l'âtre. Ces histoires, elles ont été plus ou moins écrites par la suite. Donc, il y avait des traces, mais d'autres étaient de tradition orale, simplement. Et c'était l'objet du livre de réunir à la fois quelques légendes qui étaient écrites, mais déjà dans l'ancien temps, et de retrouver quelques légendes qui avaient presque disparu, mais qui existaient uniquement par la mémoire des hommes.
Mais alors Michel Lombard, qu'est-ce qui vous plaît, pourquoi vous êtes dit, tiens, si j'écrivais un livre sur les légendes du Lot et du Quercy ?
Alors ce qui me plaît, c'est de découvrir plutôt une région ou un département ou un terroir à partir de ces histoires et des villages d'où elles sont issues. C'est mon troisième livre sur des contes et légendes sur le Rouergue, sur une vallée qui s'appelle la vallée du Vior. Et le troisième, c'est le Quercy. Donc ça permet de visiter le Quercy autrement.
Michel Lombard, comment vous avez fait votre choix justement pour les légendes ? Parce qu'on parle forcément, tout le monde connaît l'histoire du diable du pont Valentré, mais il y en a peut-être d'autres qui ne sont pas forcément connus et qui vous ont interpellé.
Mais voilà, c'est un mélange un petit peu des deux. Les très connus, bon, il fallait qu'elles y soient, c'est évident. Mais d'un autre côté, il y en a certaines qui étaient un petit peu oubliées. Celles de tradition orale que j'évoquais tout à l'heure, il était intéressant d'évoquer celles-là aussi.
Elles ont quel âge ces légendes ? Les plus vieilles que vous connaissez, par exemple, elles datent de quand ?
Oh, elles sont hors du temps, ça remonte au Moyen-Âge et même avant sûrement. Chaque fois que l'homme raconte quelque chose ou racontait quelque chose, il y avait sûrement à l'époque des parts de légende dans leur conte.
On est d'accord quand même qu'une part de légende a plutôt sa part de vérité. On s'est sûrement basé sur quelque chose pour les créer, ces légendes. Est-ce que vous êtes intéressé à, j'ai pas envie de dire l'historique, mais à la manière dont sont nées ces légendes ?
Il y a toujours un fond de vérité, mais le fond de vérité est un point de départ qui est minuscule. Par exemple, toutes celles qui sont liées à des saints, Saint-Martin, Saint-Namphèse et quelques autres, bon, c'est avéré, ça a existé. Mais on a construit autour de ces personnages toute une histoire qui sont vraiment des légendes.
Si j'ai compris, c'est pas le premier roman, parce que j'ai envie de dire livre, mais roman, c'est quand même bien adapté pour cela. C'est quand même pas le premier que vous écrivez justement sur ces légendes. Est-ce qu'il y a de quoi en faire d'autres ?
Alors, il y a de quoi en faire d'autres, oui. Rien que dans le Lot, je pense qu'il y a la possibilité de faire deux ou trois tomes supplémentaires. Mais là, c'est une autre histoire.
Et comment vous faites le tri alors à chaque fois parce que vous les avez toutes lues ou il vous en reste encore à découvrir ?
Oui, j'en ai lu pas mal, mais je les compte à mon épouse. Et quand je vois que ça la titille un petit peu, que ça l'amuse ou ça lui fait peur, je me dis que je suis sur la bonne voie. Voilà, c'est comme ça que je les sélectionne.
Donc l'hiver, j'imagine, au coin du feu, ça doit être sympa chez vous.
Ah oui, au coin du feu, c'est sympa, oui. Bon, surtout pendant le confinement, on évitait de regarder la télé et les informations. On se remontait le moral avec des histoires sordides du Quercy.
Vous avez des petits-enfants ?
J'ai deux petits-enfants, oui.
Est-ce que vous leur avez lu déjà ces histoires-là ?
Oh, ils sont encore petits, 3 et 7 ans, mais ça va venir, oui.
Et vos enfants, alors, du coup, ils ont été bercés aussi aux contes et légendes du Quercy ?
Ah, mes enfants, un petit peu plus, d'autant plus que c'est mon fils qui a fait la couverture, donc on travaille un petit peu en famille, et les graphistes...
Parce que la question par rapport à ce que je viens de vous demander, c'est tout simplement, est-ce que finalement on peut raconter ça à des enfants à un moment où on veut partager un petit moment de tranquillité avec eux, découvrir des choses? Comment vous imaginez ça, vous?
C'est un peu comme à la télévision, il y en a où il faudrait mettre un carré blanc, quoi. Mais à ce point-là, oui. Il y a celle, par exemple, du gouffre de l'Antouy, qui est une légende horrible, où une maman mange son propre fils, qui a été cuisiné par des religieuses. Bon, là, évidemment, c'est pas à mettre dans toutes les messes, si je peux dire, quoi. Mais il y en a d'autres qui sont tout à fait gentilles, qui sont pétries d'humour ou d'amour, même.
Dans ce recueil, Michel Lombard, Contes et légendes du Quercy, quelle est la légende qui vous plaît le plus ?
Oh, celle qui me plaît le plus, c'est sûrement celle des mariniers du Lot qui ont construit une chapelle à Cajar. Parce qu'il y a une vocation maritime sur le Lot et qui partage le Quercy en deux parties égales quasiment. Et c'est très intéressant parce que c'est au cœur du département du Lot actuel, mais c'est un pan d'histoire qui est raconté à travers cette chapelle.
Ce qui est impressionnant, Michel Lombard, c'est que quand on vous écoute en parler, on a l'impression que vous êtes encore un grand enfant.
Oh ben oui, il faut savoir rester jeune d'esprit, à défaut de l'être autrement, oui.
Qu'est-ce que vous souhaitez que les gens aient comme sensation quand ils ont ce livre entre les mains, quand ils le lisent ?
Oh ben, qu'ils aient la sensation que c'est une terre qui a été très vivante, malgré les difficultés de la vie qui étaient quand même très difficiles. Et les Lotois étaient des gens courageux. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir des légendes.
Alors, ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'on sait très bien que les légendes, elles datent, donc, comme vous le dites, du Moyen-Âge. Maintenant, est-ce qu'il y aura toujours des légendes qui vont arriver à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure du numérique, à l'heure où l'information circule très très vite et auxquelles, évidemment, on peut croire des choses ou pas? Est-ce que vous croyez qu'il y aura encore des légendes qui vont perdurer dans quelques années, peut-être dans le Quercy, mais ailleurs aussi?
Oui, on les appelle les fake news. Ah, oui. il suffit de broder autour et dans quelques années, on finira par croire que c'était vrai.
Je n'avais pas pensé à ça, bien vu Michel Lombard. Ce livre-là, il vous a pris combien de temps ?
Oh, quelques mois, ça a été assez rapide. Mais le confinement a aidé, le mauvais temps de l'hiver aussi.
Et vous travaillez sur le prochain ?
Je travaille, oui, j'ai toujours deux livres d'avance au moins, oui.
Mais comment vous les trouvez, ces légendes ? Excusez-moi, mais je pense que je n'ai pas bien compris. Comment vous les trouvez ? Quelles sont les recherches que vous faites au final ? Parce que ça ne se trouve pas au coin des rues, des légendes aussi vieilles que ça ?
Non, mais il y a déjà des bouquins qui ont été écrits. Parfois des bouquins anciens qu'on a du mal à retrouver. Mais grâce aux bibliothèques, aux médiathèques, on arrive à mettre la main dessus. Et c'est le point de départ. Et puis ensuite, dans chaque village, on trouve une légende qui est attachée au village ou quasiment. Alors là, il suffit d'aller sur Wikipédia. C'est pas très académique, mais c'est fort utile. Et ça permet d'avoir des idées. Et à partir de là, eh bien, on peut bâtir un bouquin.
Vous en avez fait des kilomètres alors, j'imagine ?
Dans ma tête, oui.
Contes et légendes du Quercy, c'est aux éditions Toute Latitude, Michel Lombard. On y retrouve, quelques légendes. Puisque sur la photo, il y a le petit diable du pont Valentré, j'imagine que vous allez la raconter.
Ah ben, c'est la première, oui. Oui, c'est la première. Oui.
Parce que c'est pour Aguiché, comment ça se fait que c'est la plus connue d'après vous ?
Oh, j'en sais rien, parce que les ponts du diable, il y en a une bonne centaine en France, et dans chaque département, il y en a au moins un, quoi. Et c'est quelque chose qui marque les esprits. Il y a le pont du diable de Bonnecombe dans l'Aveyron, il y a celui de Saint-Gilles dans le Gard. Bon, ici, il y a le pont Valentré, tout le monde le sait, quoi.
On le trouve partout dans le Lot, ce livre ?
On le trouve dans toutes les librairies, et mon éditeur dit même dans certaines bonnes pharmacies.
Je pense qu'effectivement, ça fera du bien pour les soirées de pluie à lire toutes ces légendes. Contes et légendes du Quercier aux éditions Toute Latitude. Alors, Michel Lombert, merci. Et puis, j'ai envie de vous dire au prochain volume, alors.
Au prochain volume, merci à vous.
Vous viendrez nous raconter des légendes à la radio ?
Oh ben avec plaisir, oui.
Merci, Michel Lombard.
Avec plaisir.
Ce soir, c'est la pression. Je vois le réel de trop près. Les insignes des agents. Au sol, nos silhouettes à la craie. J'ai beau fermer les yeux, je ne m'échappe jamais du ciment. Et au loin, le chant des sirènes ne vient jamais de l'océan. Ici, tout a un prix. Même lorsqu'on se dit je t'aime, on vit tous dans le gaz. On fait des rêves kérosène. Rêves kérosène. Mon cœur est sous pression. J'embrasse ton visage cagoulé. Ton âme est une prison. Tes yeux des vitres teintées. Je regarde au fin fond. Je ne vois rien d'autre que mon reflet. On marche ensemble sans se parler. Des mots tranchants rappellent le palais. Je voudrais comprendre tes sanglots, tes soupirs, tes silences, savoir les sous-titres. Je veux t'envoler loin d'ici, du ciment, au-delà des forêts de bâtiments. Je t'inventerai.
Gaël Faye qui sera dimanche 1er août à Écosystème à Gignac.
CFM Cahors, le mag.
Et bah que le temps passe vite, hein, ça fait déjà 2 mois que le dernier numéro de Dirlot est paru, que déjà il y en a un autre qui vient d'arriver, qui va éclaircir votre été, vous donner envie de bouger dans le département, vous donner envie de découvrir de belles choses que vous ne soupçonniez peut-être pas d'ailleurs en venant ici. Et là je m'adresse à vous vacanciers, et peut-être même encore à vous qui êtes lotois. Il y a des endroits qu'on ne connaît pas encore dans son département. Bonjour Vincent Besserve.
Bonjour Yannick.
Le Vincent Besserve, le directeur de publication de Dirlot. C'est vrai que quand on voit la une où vous intéressez à des petits villages comme ça, on se dit que oui, on ne soupçonne pas ces petits trésors dans ces petits villages-là au final.
Ouais, c'est vrai, on est parti sur les hauteurs de Cahors, du côté d'Augeol, Flaujac Poujol, la Burgade, Surac. On est allé à la redécouverte du petit patrimoine rural, et pas que, parce qu'on a aussi fait de belles rencontres sur ces terres-là, avec des artistes, avec des gens un petit peu improbables sur les hauteurs, qui pourront inciter nos lecteurs à aller à la fois découvrir des belles choses et faire de jolies rencontres aussi.
Alors, quand on dit belles choses, il ne faut pas s'attendre non plus à des gros trucs qui sont aussi épatants que la Tour Eiffel. Mais par contre, ces petites choses que vous mettez en valeur, eh ben, ça représente bien le petit moment de campagne et peut-être l'ambiance qu'il y avait avant.
Oui, puis c'est ça, c'est l'histoire d'un pays. L'histoire d'un pays retranscrite par des vestiges de pierre, on va dire. Plutôt bien entretenu, on traite pas mal des lavoirs que l'on peut trouver sur les hauteurs de Cahors, mais également de puits. Donc il y a quand même des choses assez intéressantes sur lesquelles on peut aller jeter un œil quand on se promène dans la campagne aux alentours de Cahors.
Et alors parmi les découvertes dans ce numéro de Dirlot, Vincent Besserve aussi, vous êtes intéressé, on reste dans le patrimoine, à la maison d'André Breton à Saint-Cyr-la-Popie.
Oui, c'était intéressant de mettre un petit coup de projecteur sur ce lieu-là, pas uniquement sur le village dans sa globalité, mais de zoomer sur la maison André Breton, revenir aussi sur qui était André Breton, le mouvement qu'il a impulsé, du moins auquel il a participé, un mouvement artistique, et d'inviter les gens à aller peut-être découvrir différemment le village de Saint-Cyr, connu de tous comme le plus beau des villages de France, mais peut-être un peu moins connu par son histoire et son lien avec André Breton.
Sacré baraque, hein. Il a une belle maison quand même, hein, mine de rien, donc à découvrir aussi. J'ai vu que vous intéressiez aussi à la pêche.
Oui, bah l'idée c'était, on arrive en période estivale où il faut occuper les enfants aussi, et on a voulu mettre un coup de projecteur sur l'activité pêche et notamment les ateliers qui sont proposés aux enfants. et ce, en vallée de la Serre. Donc ça permet aussi de mettre un coup de projecteur sur ce qui se passe dans la vallée de la Serre, sur les bords à proximité de la rivière Dordogne.
Avec, j'ai vu en photo, Clément Bigotte, le jeune animateur, ouais, qui est vraiment passionné par ça, et qui, je crois qu'il est très aimé de ses élèves aussi.
C'est ça.
Entre parenthèses. Je suis étonné de savoir qu'il y a des musées de la mécanique aussi dans le Lot.
Oui, alors on a, ça fait un petit moment, plusieurs années, que l'on suit le musée Mécanique Art qui a été créé maintenant il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans, puisque c'est les 10 ans, pardon, lequel a vocation à faire une rétrospective de toute l'aventure de l'homme et de la mécanique, en gros du premier vélocipède au premier homme sur la Lune. Avec une exposition permanente qui retrace par des affiches publicitaires et plein de visuels toute cette histoire de la mécanique de l'automobile, de l'aviation et du nautisme. Et cette année, le musée qui se trouve donc, je ne l'ai pas dit, mais à Casals, en Bourriane, expose en exposition temporaire Peter Claessens, qui est un des plus grands noms du mouvement du mécanique art, avec notamment une Ferrari Art Car qui est à découvrir dans le magazine et qui est reconnue par la marque elle-même comme une création artistique autour de ces véhicules.
C'est quoi le mécanique art?
Donc le mécanique art, c'est tout l'art qui va être en relation avec la mécanique au sens large. Donc c'est de la sculpture liée à l'univers de la mécanique, c'est de la peinture où on va reprendre les grandes épopées du circuit de Monaco, des premières courses automobiles, des premiers concours d'aviation. Donc on va avoir de la peinture, on va avoir de la sculpture, on va avoir de l'illustration et tout ça autour de l'art et de la mécanique. Voilà. Alors ça va dans la continuité finalement de plein d'initiatives qui avaient été faites ici, puisqu'on a du côté de Figeac un musée ratier, on a un musée du chemin de fer du côté de Martel, il y a un musée de l'automobile qui est à Casals également, donc il y a quand même une cohérence dans tout ça et un lieu assez unique qui se trouve à Casals et qui sera ouvert tout l'été.
Quand je vous dis que dans ce numéro, il y a des choses qu'on ne soupçonne pas, tout simplement, eh bien, vous allez pouvoir vous régaler vous-même, si vous êtes vacancier qui vous nous entendez, eh bien, n'hésitez pas à prendre le magazine Dirlot Magazine, qui va, comment dirais-je, vous guider vers vos péripéties, là-bas, ici, dans l'autre, plutôt, pas là-bas, ici. Et aussi, on parle de projets, alors, puisqu'on parle de musée du train, etc. Qu'est-ce que c'est que ce projet de Vélorail dont vous parlez?
Il y a un projet de création d'un Vélorail qui est porté par une association du côté de Martel, en vallée de la Dordogne. Donc on a titré un projet touristique à la force des mollets, parce que c'est un modèle d'activité touristique qui fonctionne déjà plutôt bien, notamment dans le Larzac. Et il y a ce projet qui est en cours d'étude et qui pourrait voir le jour dans les années à venir en vallée de la Dordogne. Et on voulait souligner l'initiative, l'accompagner et essayer de la porter assez haut. Voilà.
On parle de ce petit supplément que vous avez mis au milieu, là, qui est un petit carnet, petit livret des bons accords, vin de Cahors et du Lot et fromage du Kirsirouergue.
Oui.
Alors Vincent, moi ce qui m'épate, c'est que je ne savais pas que dans le Kirsirouergue, il y avait autant de fromage. Différents.
Oui, on les a peut-être pas tous. Ceci étant, on s'est rapproché d'un des experts en la matière, à savoir Damien Marty de la Maison Marty, fromager à Cahors, qui nous a fait une sélection de produits sur un cahier des charges qu'on lui avait fixé, à savoir des fromages de lait, de vache, de la région lotoise et alentour. Donc on est naturellement allé pour aller attraper des pâtes persillées aussi un petit peu sur l'Aveyron, donc Kirsirouergue, Tarn-et-Garonne. Et une sélection de vins en parallèle, de vins aussi bien blancs, rouges, voire même rosés ou effervescents, qui ont été sélectionnés sur la région. Je ne dis pas sur l'appellation Cahors, parce que dès qu'on sort du vin rouge, on n'est plus dans l'appellation Cahors. Et on a créé on a fait une dégustation avec un collectif et une dégustation accord vin et fromage qui nous a permis de trouver des mariages plutôt sympas qui ne sont que suggérés. Encore une fois, comme je le disais encore précédemment, pas de dogmatisme, on a essayé de faire un truc sympa, de donner envie mais chacun pourra trouver son plaisir là où il le sent le mieux.
Ça veut dire qu'il y avait un jury qui goûtait les vins et qui mélangeait les fromages avec pour savoir effectivement...
Exactement, c'était l'idée.
Qui faisait partie c'était...
Ah bah oui, quand même.
Oh,
j'ai eu la chance de m'y mêler, donc c'était plutôt sympa.
Oui, bah
et,
oui.
et c'est surprenant. Voilà, c'est surprenant parce qu'on parle la plupart du temps, d'accord, de vin blanc et de fromage, mais on peut trouver dans des Cahors jeunes, pas trop musclés, des accords plutôt sympas. Voire même, comme je l'évoquais, avec des vins un peu atypiques tels que celui que j'ai sous les yeux, là, le Capsule de Fabien Jouve, qui est un blanc effervescent, qui est sur des notes un petit peu truffées, qui s'accorde idéalement avec le bleu du Lot qu'on peut retrouver à la Maison Marty et sans doute ailleurs.
Et beaucoup de fromages fermiers, parce que là, quand tu parles oui. justement de ce vin-là, c'est le bleu fermier du Lot, évidemment, on ne va pas le retrouver... dans tous les magasins, quoi.
C'est ça. Alors, il y a quelques fromagers plutôt sympas.
Il faudrait chez le fromager
ouais.
qu'on se connaît, quoi.
Ouais, alors après, on a aussi en grande surface hein, des achats de proximité qui se font. Donc,
d'accord.
on va pouvoir retrouver parfois des productions locales. Mais c'est vrai que lorsqu'on va à Figeac, à Saint-Céré, tout récemment, un nouveau fromager a ouvert à Prayssac, à Cahors, bien sûr, à Gourdon également, il y a des choses plutôt sympas qu'on peut retrouver. Voilà.
Le magazine d'Irlotte donc est chez votre marchand de journaux, il est déjà disponible avec, on pourrait parler aussi des phosphatières du Clou d'Oral, de l'agroécologie Aglane, du Valais de la Serre, bref, il y a encore pas mal de choses. On n'a pas le temps de tout parler, disons. C'est chez votre marchand de journaux. Et puis, il y a une double actualité en cet été aussi. Alors, j'ai juste oublié quand même de dire que dans Dirlot, là, comme c'est le numéro d'été, vous avez mis aussi des pages avec des choses à dire aussi, à faire.
Oui, à faire, oui, parce qu'on trouvait important de mettre un gros coup de projecteur aussi sur l'actualité culturelle estivale qui avait besoin d'un accompagnement. Et vu la richesse de la programmation calée en toute dernière minute, ça méritait d'être souligné et de vous proposer des sorties tous les jours.
Et dans Dirlot, il y a le hors-série que vous sortez régulièrement qui s'appelle Itinérance. Alors on rappelle le principe, autant Dirlot, on reste dans le domaine du Lot, autant là, Itinérance, on élargit.
On ouvre le champ des possibles.
On ouvre les horizons même.
C'est ça.
C'est ça le principe. Donc du coup, ça se passe Tarn-et-Garonne, Aveyron, Lot,
c'est ça.
Dordogne.
En fait, Itinérance est une marque qui n'est pas bloquée par la géographie. Donc aujourd'hui, c'est encore administrativement hors série de Dirlot, mais ça a vocation à vivre de toute façon tout à fait indépendante. Et le choix éditorial qui a été fait sur l'édition 2021 est d'amener le lecteur entre Quercy, donc Lot, Tarn-et-Garonne, Périgord, Dordogne, en Corrèze et également en Aveyron. Sur de la redécouverte du patrimoine et du territoire de proximité, mais également pour des gens venus d'ailleurs, qu'ils soient à Limoges, à Bordeaux, à Toulouse, à Agen, à Clermont-Ferrand, où on vend le magazine sur plus de 700 points de vente. Donc c'est aussi inciter et participer à ce tourisme de proximité à moins de 3 heures qui colle bien à la réalité des disponibilités des gens sur des week-ends de 3 jours. Quoi.
Et c'est quoi la une de ce numéro d'itinérance ?
Alors, sur le dernier itinérance, donc paru début juin, on a le château de Castelnau-Bretenoux qui est en une. On a voulu amener les gens hors des sentiers battus, un petit peu entre Dordogne et Lot. Donc, il faudra nous suivre, on vous prend par la main et vous allez découvrir de belles choses. Et si je dois retenir aussi des choses intéressantes, très intéressantes même, et surprenantes, je dirais, sur ce numéro, c'est l'immersion sur le plateau du Lévezou, en Aveyron, le pays des Grands Lacs, et qui n'est pas si loin que ça de chez nous. En Tarn-et-Garonne également, où on a navigué au fil de l'eau avec la pente douce sur Montèche, Moissac, Montauban. Donc il y a plein de choses à découvrir.
Il faut regarder parce que là, en plus, il y a des photos magnifiques. Voilà, c'est vraiment un magazine qui vous amène à rêver, à l'évasion, et que si vous avez envie de découvrir, d'élargir effectivement votre horizon, d'aller dans les départements à côté, c'est le guide qu'il vous faut, il est là le guide, tout simplement. Chez le marchand de journaux également, donc Itinérance qui nous amène dans le Quercy-Périgord, et Dirlot qui nous amène dans le département lotois. Très bien, un petit peu de vacances quand même.
Bientôt, on va essayer de finaliser le numéro de septembre avant de partir, comme ça on partira sereinement. Et on pourra se projeter déjà sur la suite, mais on va prendre quelques congés. Ouais.
Donc on va se voir très rapidement. Du coup. Merci Vincent Besserve.
Bonne continuation, bon été à vous. Au revoir.
C'est la fin de ce magazine. Rediffusion tout à l'heure à 17h et à 21h30 également, puis à retrouver en podcast comme tous les autres magazines sur cfmradio.fr. Vous restez avec nous dans quelques instants, le journal, et puis la musique continue sur CFM Cahors.